C'est clairement le thème de la vie éternelle qui est évoqué dans les lectures que nous venons d'entendre. Que ce soit dans le livre des martyrs d'Israël, où on voit ces 7 frères qui se sacrifient pour ne pas déroger à la loi de leur père, à la loi de Moïse, ou que ce soit aussi avec l'Écriture, l'Évangile, où Jésus rappelle que le Seigneur est le Seigneur des vivants et non pas le Seigneur des morts. Et rappelle au fond que la question de la résurrection face au piège des Sadducéens, qui ne croyaient pas en la résurrection, eh bien il leur rappelle l'Écriture, la Torah, le livre de la Genèse, les commencements. Cette question de vie éternelle, c'est vraiment, j'allais dire, au cœur même de notre foi. C'est au cœur de la foi de tout croyant, quelle que soit sa religion. Nous croyons en une vie éternelle, une vie après la mort. Mais aujourd'hui, il est des personnes qui ne croient pas en la vie éternelle. Alors, on a connu les grands athéismes du XXe siècle. Et les personnes qui, par manque de foi, disent « non, il n'y a que cette terre ». Et croient qu'au fond, la vie termine dans la fosse. Mais aujourd'hui, il y a autre chose qui commence à poindre, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, vous en avez peut-être entendu parler, avec Laurent Alexandre, le grand chantre de cette théorie qui fait l'éloge de l'homme augmenté, de l'homme qui aura de plus en plus de capacités, peut-être aura des yeux grâce à la technique qui permettront de voir comme l'aigle, avoir une ouïe et une oreille modifiées, tout ça créé par des imprimantes 3D, avoir peut-être un rein de rechange, avoir... Et cet homme-là, Laurent Alexandre, dit à la fin d'une de ses conférences, il dit « Certains d'entre vous ici vivront 1000 ans ». Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la sécurité sociale que de devoir payer des retraites sur 1000 ans. Déjà, on a du mal jusqu'à 80, 90 à honorer tout le monde. Mais toujours est-il que ça dit quelque chose. C'est pas simplement dire il n'y a pas de vie éternelle, la vie termine dans la fosse. On meurt, mais on termine dans la fosse. Ça, c'est tous les athéismes. Mais là, c'est autre chose. C'est, ils disent, il y a une vie éternelle, mais en fait c'est que ici-bas. C'est qu'on ne mourra pas. On ne mourra pas. Et donc on voit se développer un certain nombre de techniques un peu partout. Alors ça reste encore confidentiel, ça reste assez peu connu, toute cette question de l'homme augmenté, du transhumanisme, parce que c'est encore un peu en ses débuts, mais sachez que beaucoup de firmes mettent beaucoup d'argent dans ces techniques-là, ça veut dire que ça peut rapporter beaucoup d'argent. On connaît, vous vous rappelez, l'athlète Oscar Pistorius. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme nom, c'est un athlète sud-africain qui avait un des membres amputé et il avait une prothèse, une forme de lame, voilà. Mais il a été disqualifié pour les Jeux Olympiques parce qu'en fait c'était beaucoup plus performant qu'un pied habituel et qu'une cheville que nous avons. Et il allait, avec cette forme de ressort, beaucoup plus vite. Et donc on a dit non, il ne peut pas parcourir, il ne peut pas concourir lors des Jeux Olympiques. Mais est-ce que dans une autre vie, on ne se fera pas volontairement amputer les membres de façon à avoir aussi des orthèses qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite? Est-ce qu'on ne va pas développer des tissus au niveau des reins, etc., pour avoir toutes des rechanges, des pièces de rechange? C'est un petit peu l'idée d'avoir des pièces de rechange qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, on puisse, avec nos propres cellules, à partir de nos propres cellules, se développer un rein, se développer un poumon, se développer, ce qui fait que beaucoup moins de risque de rejet que par rapport aux greffes. et aussi est mis au point fabriqué de toutes pièces, hein, une sorte d'un cœur mécanique, hein, et qui donne de très bons résultats. Est-ce qu'au fond, on ne va pas dire, ben oui, je préfère peut-être mettre ce cœur-là dans la place de cœur, mon cœur qui va vieillissant, et du coup, celui-là, il ne s'arrêtera jamais, il marchera tout le temps, même quand je serai mort, il continuera à fonctionner, donc parce qu'il faut enlever la pile. Donc vous voyez, on sent qu'aujourd'hui, cette question de vie éternelle, derrière ça, c'est l'accueil de la limite. C'est l'accueil de la limite. Est-ce que j'accueille ma dimension humaine et ma dimension limitée, de mortel, hein? Rappelez-vous la tentation qui n'est pas si récente, qui est de toujours, hein? Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Mais non, vous ne mourrez pas. Prenez du fruit de l'arbre du bien et du mal. Vous ne mourrez pas. Vous serez semblable à Dieu. Parce qu'il y a, et c'est vrai, quelque chose en nous d'infini. Il y a quelque chose en nous d'infini qui est l'intelligence et la volonté. Et c'est cet infini-là vers lequel, ce qu'on appelle l'âme de façon générique, hein, cette âme-là, notre âme, notre esprit, voilà la fine pointe de l'âme qui va avec l'intelligence aimer Dieu, et qui est une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on continue d'aimer même quand notre corps ne fonctionne plus, et on continue de comprendre même quand notre corps n'est plus au rendez-vous, parce que notre âme et notre intelligence, notre volonté dépassent la matière. C'est-à-dire, nous irons au ciel avec notre capacité d'aimer, notre capacité de comprendre, et on sera rassasié de Dieu. En le contemplant, notre intelligence sera rassasiée, et on sera rassasié d'amour en l'aimant. Et nous affirmons même que nous ressusciterons avec notre corps, ce qui est assez logique, parce qu'au fond, si on imagine une plénitude, c'est forcément avec le corps. Parce que le corps sans l'âme, dit saint Thomas d'Aquin, est dans un état de violence. Le corps, notre corps et notre âme sont, on appelle, terme philosophique un peu compliqué, mais une union substantielle. On parlera de transsubstantiation dans l'Eucharistie. Il y a une union substantielle, c'est notre âme est façonnée par notre corps, notre manière de comprendre, notre sensibilité, ça est façonnée par notre corps. Quelqu'un qui a traversé des difficultés, qui vit un handicap, etc., a une manière de comprendre, une sensibilité différente. Et puis aussi, notre corps, parfois, exprime notre âme. Toutes les maladies qui s'exprime dans le corps et qui, voilà, dont le corps est l'expression. Donc c'est intéressant de se dire que, au fond, nous affirmons que nous avons une limite. Et on voit bien que la technique maintenant permet de repousser les limites, d'aller en dehors de l'humain, en tout cas en dehors des limites humaines. Et tout ce débat qui s'est qui a eu lieu autour de la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, au fond, à voir avec ça, au-delà de la question de l'homosexualité, au-delà de la question de la parentalité, bon voilà, c'est la question de l'homme augmenté. C'est-à-dire, il y a des choses que la nature ne permet pas, et bien du coup, mais la technique le permet. Alors que ce n'est pas une maladie, ce sera remboursé. Mais est-ce que demain, ce fameux cœur qui est en train de naître, là, qui est en train d'être fait, hein, entre autres par l'entreprise Matra, est-ce qu'au fond je pourrais dire, bah, écoutez, non, je ne suis pas encore malade, mais en prévision, j'aimerais qu'on m'implante un cœur automatique comme ça, mécanique, une machine. Ça m'évitera tout infarctus, ça m'évitera la fatigue, ça m'évitera. Oui, et qu'est-ce qu'on dira alors après? On n'aura pas d'argument, parce que déjà on a commencé à rentrer dans cette logique-là de ne pas écouter les limites du corps. La vie éternelle, c'est certainement quelque chose qui nous rappelle et nous appelle à l'humilité. De dire et nous affirmons que la mort, et nous venons de fêter, hein, la Toussaint et de faire mémoire des fidèles défunts décédés, eh bien, la mort pour nous n'est pas la fin de tout. La mort, c'est d'abord une rencontre. Mais c'est compliqué pour nous parce qu'on ne s'imagine jamais mort. Par définition, on n'a jamais eu l'expérience, c'est évident. Mais on n'y arrive pas. Quelque part, on se croit tous immortels. On s'imagine immortels, on se pense immortels. Parce qu'il y a quelque chose d'infini. Parce que la mort nous paraît, cette dissociation de l'âme et du corps, nous n'en avons aucune expérience. Alors ça demande c'est vrai qu'il peut y avoir, il y a une tentation par rapport à la vie éternelle. Une tentation par rapport à la vie éternelle, et à la fois l'affirmation d'une vie éternelle comme chrétien, et aussi d'une résurrection, c'est ce que dit Jésus, la résurrection de la chair, nous sommes appelés aussi à contempler Dieu avec notre chair, eh bien, permet de relativiser ce que nous pouvons vivre ici-bas. N'oubliez pas que croire à un paradis terrestre s'oppose clairement à l'Évangile. Des personnes qui croient en paradis terrestre, on voit comme ça un certain nombre de sectes, je me souviens comme ça au Brésil, hein, une secte s'appelle l'Église du règne universel de Dieu. C'est une secte extrêmement puissante, qui est maintenant dans le gouvernement brésilien, qui s'assimile plus ou moins aux évangéliques. Et leur thème, c'était « Arrêter de souffrir ». Vous imaginez au Brésil, un thème comme ça, « Arrêter de souffrir ». Ça veut dire, au fond, ils proposent, c'est aussi le cas des témoins de Jéhovah, etc., un paradis terrestre. Nous allons vous donner le bonheur complet sur terre. Et ça, ça s'oppose à l'Évangile. Ça s'oppose à l'Évangile qui rappelle justement la résurrection, mais qui rappelle aussi cette évidence, hein, que nous sommes, un jour, nous quitterons cette terre. Nous quitterons cette terre. Mais justement, comme chrétiens, on ne vit pas dans la désespérance. Je ne sais pas comment les personnes qui ne croient pas en la vie éternelle, comment elles vivent des souffrances, et j'imagine comme des deuils, comme tout un chacun, on peut vivre des deuils, des maladies, des choses qui sont au niveau humain absurdes. Comment est-ce que ces personnes-là vivent? Et c'est vrai que soit notre vie est absurde, soit notre vie est mystère. Et on voit bien les deux chemins qui s'ouvrent à nous. Soit notre vie est absurde parce que ce monde est absurde, fait de souffrance et se termine dans la fosse. Soit notre vie est mystère parce que nous portons en nous-mêmes, plus grand que nous-mêmes, nous portons en nous-mêmes déjà les semences de la vie éternelle. Quelque chose d'infini. Par notre nature humaine, l'intelligence, la volonté, mais aussi par le baptême, nous portons quelque chose d'infini, la présence de Dieu. Nous sommes, c'est ce qu'on dit en théologie, d'un mot un peu compliqué, l'inhabitation de Dieu dans l'âme. Mais c'est pas rien, ça. Oui, c'est pas rien du tout. Parce que le fait de percevoir cette vie éternelle, ne serait-ce que, par exemple, prenons quelque chose, le fait de devenir parent. C'est complètement différent si vous devenez parent, si vous croyez en la vie éternelle ou pas. Pourquoi c'est différent? Alors, techniquement, l'accouchement se passe de la même manière, ça c'est pas une question, mais cette différence, c'est que dans un sens, vous direz, eh bien, mon enfant, sa vie terminera le plus tard possible, certes, mais dans la fosse. Alors que quand vous êtes croyant, vous dites « Je mets aussi un enfant au monde pour la vie éternelle. » Donc il y a toute une perspective, une ouverture qui se présente à nous. Une espérance, une vie avec Dieu, une vie de béatitude. Vous vous rappelez, la Toussaint, on a écouté les béatitudes, bienheureux les pauvres, parce que c'est sûr que accueillir la vie éternelle, ça demande de se reconnaître pauvre, de se reconnaître mortel, de se reconnaître créature, tout simplement. Et donc, Ça demande une certaine humilité. Hein, que ce qu'il y a en nous d'infini, cet appel à l'infini qu'il y a en nous, parce que nous le portons par notre intelligence et notre volonté, cet appel à l'infini, il doit passer par la porte des pauvres. Il doit passer par l'humilité. Il doit passer par l'accueil de la limite. L'accueil de la limite que le corps nous donne. Et le corps nous rappelle justement cette limite. Et c'est là où on voit que le transhumanisme, celui qui veut créer un homme désincarné, au fond, de plus en plus loin de son corps, un homme augmenté, avec des capacités extraordinaires, ce transhumanisme est juste le rebours du christianisme, l'inverse. Alors que Jésus a pris notre nature humaine, nous qui avons une nature humaine, nous la refusons. Et nous voulons donner quelque chose d'éternel au corps ici-bas. Alors que Jésus nous dit, voilà, l'homme s'est fait Dieu pour que Dieu devienne... Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais c'est dans cette incarnation. Alors que là, on est au contraire dans quelque chose de plus en plus désincarné. Alors je trouve ça intéressant que Jésus nous invite justement de dire, ben, c'est le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. Les choses de cette vie, elles prennent une perspective différente parce que nous savons que, comment vous dire, nos actes retentissent dans l'éternité. Nos actes retentissent dans l'éternité. C'est ça le jugement dernier, c'est que nous croyons que nous emporterons avec nous rien de cette terre. Le linceul n'a pas de poche. Nous n'importerons rien de cette terre si ce n'est des actes d'amour désintéressés. Et ça, ça donne à notre vie une dimension extraordinaire. Extraordinaire. C'est que tout peut avoir avec la vie éternelle et cette vie éternelle, elle m'implique ici et maintenant. Loin de m'éloigner de mon prochain, loin de m'éloigner de la réalité de ce monde, au contraire, je suis invité à l'embrasser de plein cœur. Et c'est pour ça qu'on voit tant d'hommes et de femmes dans l'Église qui nous ont montré cet amour de la vie éternelle, cette certitude, et en même temps qui ont développé des œuvres de charité, ils sont allés à la rencontre des plus nécessiteux, etc. Parce que il y a cette urgence-là d'en témoigner ici-bas. Alors on va demander au Seigneur de nous aider à rentrer dans cette dimension-là, hein, à ne pas nous à rester, à nous découvrir créatures, à accueillir les limites de chaque jour, les contretemps de chaque jour. Hein, voilà, et ces limites-là, ces manques-là, qui font notre nature humaine, sont en même temps le lieu où on peut découvrir une communion avec Dieu. Amen.